Olivier Delagosi, bonjour.
Bonjour Audrey.
Vous publiez aux éditions Enfortas votre quatrième roman, La nuit du Samin, raconté par une vieille épée. Peut-être pour commencer, expliquer le titre, le Samin, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jour un petit peu particulier, presque en dehors de temps, qui marque la fin et le début de l'année celtique.
Voilà, donc c'est une fête gauloise où on fêtait le début de la saison sombre. Or, chez les Gaulois, tout commençait la nuit. Et donc le monde se crée la nuit, un peu comme dans la Genèse, il y eut un soir, il y eut un matin. Donc on commence la vie par pas par la mort, mais par le sombre, la nuit, le néant, un petit peu le caveau. Et voilà, c'est pendant l'obscurité, pendant la nuit que le monde va se créer, pour que naisse à l'aube le nouveau jour et ce nouveau monde. Donc la nuit du Samin, ça me plaisait bien avec ces histoires de fêtes au solstice, enfin au calendrier d'hiver, et les vivants et les morts qui se retrouvaient d'une façon intemporelle et y parlaient. Alors y parlaient, donc ça me permettait moi de faire le lien avec une mystique, une spiritualité ancienne qui était celle des Gaulois, une spiritualité qui était de notre terre, de nos racines. Et je me dis, mais il doit y avoir un lien avec aujourd'hui, parce qu'il y a toujours un lien, à condition de le trouver. Et donc voilà, cette nuit du Samin, ça m'a interpellé, et j'ai dit, bon, on va partir là-dessus. C'est un angle d'attaque intéressant pour ce livre que je voulais écrire, justement à la recherche de nos racines spirituelles chez nous, en France, en Occident.
Alors vous êtes spécialiste des questions spirituelles anciennes et modernes. Ce roman historique est l'occasion de se replonger justement à la découverte de ces racines un petit peu oubliées du christianisme, des druides à Marie de Magdala.
Voilà, c'est ça. Donc je suis toujours en quête de racines, puisque je voudrais défendre notre spiritualité, qu'on va souvent chercher très loin. On fait des Paris Katmandou ou forêts d'Amazonie pour trouver une spiritualité, une mystique, alors que, pour moi, elle est là. Elle est à nos pieds, elle est sur notre terre, dans nos racines. C'est pas quelque chose de nationalisant, de nationaliste. C'est que voilà, il y a une réalité. C'est on s'est construit sur quelque chose, sur une spiritualité, sur quelque chose qui est hors du temps. Eh bien, c'est à nous, ça nous parle, c'est notre langue. Il faut qu'on le redécouvre et qu'on se le réapproprie. Et que cette période mal connue des Gaulois, parce qu'on a dit un peu tout et n'importe quoi, on a utilisé nos ancêtres les Gaulois à des fins politiques, déjà de Napoléon III, donc on a réinventé à des fins politiques les Gaulois. Bon, la Gaule, c'était autre chose. Et puis cette spiritualité qui venait de loin, qui venait des Celtes, qui venait de l'Hyperborée, c'est-à-dire de ces pays du Nord mystérieux, qui a laissé une trace, et cette trace, elle s'est transmise chez ces premiers Gaulois qui ont accueilli les témoins d'une belle histoire qui s'était passée en Orient, une histoire merveilleuse d'un homme qui était mort sur une croix, et puis finalement c'était un dieu. Alors c'est vraiment bizarre, sauf que tout ça réveillait des échos de ce qu'on avait entendu chez les druides, mais il y a longtemps, parce que quand les premiers chrétiens arrivent en Gaule, les druides, ils ont disparu depuis 200 ans. Donc les Gaulois qui avaient subi l'envahissement des Romains, et les Romains qui leur imposaient une spiritualité qui n'était pas du tout liée à l'au-delà, au bien, mais à l'immortalité, c'était plus sur la consommation, sur l'ordre social. Et d'ailleurs, on dit toujours les Romains, ils croyaient à tout, pourvu que ça ne dérange pas l'empereur. Donc ils accueillaient volontiers toutes les religions qui venaient, et puis surtout de l'Orient, parce que les religions venaient toujours de l'Orient, pourvu que ça n'embête pas l'empereur. Donc, mais ce qu'on avait demandé aux Gaulois, ça ne leur parlait pas. Et quand les premiers témoins de quelque chose qui s'est passé loin leur parlent de ça, d'un dieu né d'une vierge, tout ça, ça leur parle. Et puis ce besoin de ce retour vers l'immortalité, sur l'au-delà, les Gaulois qui croyaient pas en la réincarnation, mais qui croyaient que la vie toujours se transmettait sous une forme ou sous une autre, une métempsychose. Voilà, donc ça leur parlait, et petit à petit, ils ont endossé un petit peu ce qui n'était pas encore une religion, qui n'était pas encore normée, qui n'était pas encore enfermée dans ce que je dis le génie latin, c'est-à-dire dans certains rationalismes. Donc ils ont accueilli ces premiers témoins qui venaient d'Orient, donc des esclaves ou des militaires, des marchands, beaucoup, parce qu'on se rappelle la communauté de Lyon notamment qui a subi le grand martyr, c'était surtout des orientaux. Mais petit à petit, il y a une capillarité qui se fait jusque dans les campagnes où ils ont reçu ça, ils ont endossé ça, et ça leur parlait.
Pour raconter cette histoire, pour partir dans cette quête des origines, des racines. Vous auriez pu prendre un personnage. Vous avez choisi de prendre le regard d'une vieille épée. Ça peut paraître assez dérisoire, ça permet par contre beaucoup de choses.
Oui, ça permet beaucoup de choses. Alors c'était aussi un petit clin d'œil à Jean-Yves Leloup qui a signé la préface et qui m'a en fait remis vers la spiritualité avec des livres qu'il avait écrits il y a longtemps. Et puis notamment, il avait écrit un livre qui s'appelait « La vie de Jésus racontée par un arbre ». Alors je trouvais ça tout à fait décalé et ça permet d'avoir, de se mettre à côté, de se mettre un peu en dehors du temps parce que cette vieille épée qui est suspendue à un temple gaulois, ben, elle assiste depuis on ne sait pas combien de temps, des dizaines et dizaines d'années, elle assiste à cette fête du Samhain, cette nuit du Samhain et elle entend toujours les mêmes histoires qui se racontent et on ne sait plus qui, est-ce que l'un est mort, est-ce que l'autre est vivant, mais pour l'épée c'est pareil. Et donc elle a une prise de distance par rapport à ça, en même temps elle est suspendue, donc elle a un caractère divin, enfin, parce que chez les Gaulois, tout ce qui était accroché avait un caractère divin et dès lors que ça tombait au sol, ça perdait ce caractère sacré. Donc elle est là, et puis elle reçoit les confidences du vent, où il y a cet aigle qui vient lui raconter des choses. Alors l'aigle, bien sûr, ça nous fait penser à Saint Jean qui va nous raconter cette belle histoire. Et donc elle est là, elle assiste, et ça me permettait, moi, d'utiliser voilà, cette vieille épée pour être pas trop dans l'historicité et pouvoir jongler un petit peu sur les époques, sur les dates.
Ce livre est un roman. Quelle est la part de fiction, la part de réalité? Je suppose qu'il y a eu quand même beaucoup de recherches de fait, puisque vos romans sont majoritairement historiques.
Historiques et spirituels. Voilà, ce sont les deux choses qui m'intéressent. Donc là, ça reste historique. Donc il y a eu un travail important sur les Gaulois, sur ce qu'ils étaient et ce qu'ils n'étaient pas. Et puis sur ces premiers chrétiens, sur ce début du christianisme en Gaule. Donc là, voilà, il y a eu un travail de recherche qui me permettait de, là-dessus, développer une petite histoire pour amener justement le christianisme et ses premiers chrétiens. Donc on parle de ces mythes des premiers saints de Provence, Marie-Madeleine, est-ce qu'elle est venue en Provence? On n'en sait rien. Lazare, est-ce qu'il est venu en Provence? On n'en sait rien. Seule chose qu'on sait, c'est que maintenant, ils y sont. Voilà. Et comme ils y sont, eh ben, on les associe à notre spiritualité. Et donc, voilà, un des personnages du roman va rencontrer Marie-Madeleine et qui va l'éveiller. C'est un des personnages qui est un petit peu un personnage clé de ce livre, c'est-à-dire que lui est l'héritier des rois arvernes. C'est donc il détient le secret de la cachette de l'épée de Vercingétorix, cette vieille épée que tous les rois arvernes pouvaient brandir pour lever la révolte. Et donc Vercingétorix l'avait fait en dernier, et César avait accordé aux arvernes le droit de garder cette épée, en même temps que il avait refusé qu'ils soient des esclaves pour garder leur fierté. Il ne voulait surtout pas qu'un peuple fier se retrouve esclave, parce que pour l'avenir, c'était dangereux. Donc il a laissé la liberté aux arvernes, il leur a laissé leur épée, mais elle était cachée. Donc ce dernier descendant des rois arvernes connaît la cachette de cette épée. Toute sa vie, il se demande, mais qu'est-ce que je fais de cette épée? En même temps, je connais bien cette nouvelle histoire, cette belle histoire qui vient d'Orient. Et en gros, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? J'y vais pas? Je vais chercher l'épée pour appeler encore une fois à la révolte? Ou est-ce que j'embrasse cette nouvelle religion qui me parle? Parce que voilà, ça réveille en moi des échos. Et donc, il accueille un jeune qui était parti il y a longtemps sur les mers et qui revient avec les yeux enflammés parce qu'il a vu quelque chose là-bas.
À qui vous destinez ce livre?
Oh, il y a des personnes qui ont lu ce livre qui n'avaient aucune culture religieuse ou qui baignent dans le christianisme, parce qu'on dit qu'on a une culture chrétienne. Bon, soit. Mais on n'a plus beaucoup de repères, on n'a plus beaucoup de mémoire de ça. Et plusieurs personnes m'ont dit « Ah, mais si on m'avait raconté le catéchisme comme ça, qu'est-ce que ça m'aurait plu ?» Ah, là, j'aurais compris. Voilà. Et donc, ça s'adresse à des gens qui connaissent le christianisme, ça s'adresse à des gens qui ne le connaissent pas. Et c'est pour ça qu'il y a un aspect un peu une couverture qui est, des fois on pense que c'est la fantaisie. Voilà, c'est un public qui peut être jeune parce que c'est vraiment tout public, plus érudit ou pas. Voilà. Après, effectivement, c'est une spiritualité qui est pas forcément toujours dans un dogme précis. Et ben voilà, tant mieux.
Vas-y. Un grand merci d'être venu dans ce studio nous présenter votre dernier roman, La nuit du Samhain, raconté par une vieille épée. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.